Docteur Méchin, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette différence dengue chikungunya ou...
Non, mais c'est l'image globale. Là. La dengue peut entraîner plus facilement la mort que le chikungunya. Là, c'est extrêmement rare qu'un chikungunya conduise à la mort, alors ça peut être le cas pour la dengue. La perception vient du fait que la dengue, c'est plus des douleurs musculaires, et le chikungunya, c'est plus des douleurs articulaires. Et c'est assez handicapant rapidement, et ça peut avoir des effets qui durent dans le temps ou qui reviennent plus tard. Voilà. Et c'est assez incapacitant, et ça peut être incapacitant de façon chronique. Alors le chikungunya, en effet, ça peut être assimilé à une virose classique, donc la comparaison avec la grippe peut être faite, hein, même s'il y a des aspects différents. Voilà, donc ça peut expliquer des éléments pour expliquer vos propos ou la perception que vous en avez, mais
que les habitants
schématiquement c'est quand même ça, quoi. Ouais.
Bien, alors à l'issue de ces présentations sur on a passé un petit peu de temps sur ce moustique tigre, mais je crois que c'est intéressant d'avoir un cas pratique et de le creuser, de le développer, parce que on rentre vraiment dans l'ensemble de la scénographie, entre guillemets, avec des enjeux sanitaires, des enjeux sociétaux. Quand vous exprimez qu'aux Antilles, c'est considéré comme un lien à la métropole, d'avoir le passage, enfin, on se rend bien compte du poids de l'imaginaire et de l'obstacle que peut représenter cet imaginaire. C'est vrai qu'on a ouvert le séminaire, et je reprends vos propos, Annabelle Porté, vous avez dit, nous, sur la définition d'une espèce invasive, tout de suite, ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir des considérations sociologiques et d'entrer, de dépassionner pour entrer dans des arguments rationnels qui nous permettent de constituer un socle sur lequel baser des actions, des plans d'action, de gestion. En fait, ce n'est pas si simple. On se rend bien compte dans ce cas-là que la caractérisation de ce qu'on peut appeler la rationalité, c'est-à-dire... un enchaînement dans un raisonnement qui peut sembler logique, que les logiques qui nous pilotent, finalement, sont sociologiquement recevables de manière variée, et que ce poids des imaginaires me semble, au regard de ce qui a été décrit là cet après-midi, extrêmement pesant sur le sujet des invasions biologiques. Alors, on pourrait élargir le champ à l'écologie en général. Vous aviez introduit votre sujet autour d'une proposition de gestion intégrée compatible avec le développement durable. Je crois que vous aviez eu cette... Oui, enfin, c'était en tout cas à un moment donné envisagé, non ? Non.
C'est toi ?
Ah ben écoutez, j'ai sous les yeux un programme avec un intitulé... Cécile Aclès autour
du... Ah non, mais c'est pas moi, c'est le titre du programme européen dans lequel j'ai travaillé. Ouais.
Donc, on y est, merci. Vous allez finir par me faire dire n'importe quoi. Trois fois que je suis reprise sur des intitulés. Voilà, c'était bien l'intitulé d'un programme de recherche où je disais qu'on pouvait élargir ce poids... merci. Ce poids de l'imaginaire, justement, dans l'influence, dans les pratiques, et qui nous y sommes, là, je pense, particulièrement confrontés. Et j'allais dire, oui, qu'on pouvait l'élargir à la question de l'écologie en général et à la compatibilité avec le développement durable. Ça a été légèrement abordé ce matin sur la question du domaine viticole, où on confrontait des attentes sociétales avec des exigences sanitaires, etc. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin sur ces sujets qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, qui me paraissent, moi, pourtant assez intéressantes. C'est-à-dire comment on recroise à partir de la problématique espèce invasive des ambitions écologiques. Voilà. Ce qui n'est probablement pas simple. Comme ça a été démontré. Avec le changement climatique également, on n'a pas beaucoup parlé du changement climatique dans la notion d'espèce invasive. Si on prend le premier critère qui a été défini ce matin comme la modification d'une aire de répartition géographique et la mutation de la migration des populations, on peut imaginer que les espèces invasives se multiplient au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'on sait, enfin, au fur et à mesure du réchauffement climatique, vous avez dit tout à l'heure, oui, finalement, c'est une espèce méditerranéenne, comme le climat méditerranéen potentiellement se rapproche de nos côtes, de notre Aquitaine, on finit par considérer que c'est toléré et que ça fera peut-être partie. Donc je pense tous ces sujets autour de développement durable, changement climatique, lien avec les espèces invasives, qu'on aurait pu, peut-être dans un autre colloque ou plus tard, aborder, mais qui me paraissent aussi intéressants, aussi dans la réception sociétale de cette problématique et dans ses résonances. Est-ce qu'il y a des questions ?
Alors, je m'excuse parce que je vais être un peu basico-basique, mais dans ce que vous nous avez expliqué, monsieur, sur le...
On ne vous entend pas très bien, près. Plus près, plus près.
C'est bon ? Voilà. Donc je vais parler plus fort surtout. Mes interrogations sont celles du citoyen, là. Je vais oublier mes autres casquettes. En ce qui concerne le moustique-tigre, où on est typiquement dans une espèce nuisible, et là on n'est plus dans l'espèce simplement invasive, elle est nuisible puisqu'elle est porteuse potentiellement d'une maladie. On mesure sa nuisibilité lorsqu'on va mesurer effectivement l'apparition d'un malade. Actuellement, quels sont les systèmes d'alerte qui permettent de diagnostiquer un malade? C'est-à-dire qu'en Gironde, on sait que le moustique est arrivé. On ne sait pas s'il est vecteur, puisqu'a priori, le malade ne va pas forcément s'identifier comme étant potentiellement porteur de la dengue ou du chikungunya. Donc, avant d'aller consulter un médecin parce qu'on a de la fièvre, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la fièvre basique à je consulte en imaginant que je vais peut-être avoir... la dengue et le chikungunya, qu'on va m'identifier après dans les réseaux qui vont bien et qui feront qu'on aura donc un lien direct de cause à effet. Et ceci, pour aller plus loin, au-delà du citoyen, on revient aux préoccupations plus larges qui sont celles de toute la journée, en fait. Comment mettre en place le bon système d'alerte pour qu'on diagnostique bien l'espace invasif nuisible, encore une fois? Est-ce que vous pensez que l'expérience médicale peut avoir un sens par rapport à ma question qui serait ramenée au végétal ou à n'importe quelle culture? Merci.
Donc l'idée, c'est que quelqu'un qui est malade va voir son médecin. Alors après, il y va plus ou moins rapidement ou en fonction de la perception qu'il a de cette maladie. Et donc le fait d'aller sous les tropiques, ça... Ah, vous parlez des cas autochtones, du coup. Quelqu'un qui a de la fièvre, eh bien, ça c'est de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas savoir que quelqu'un qui a de la fièvre, qui est présent sur le territoire de la Gironde, va avoir une dengue ou un chikungunya. Parce que le cas de figure ne s'est pas présenté pour l'instant. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est en amont qui va abonder et nous apporter un certain nombre d'éléments qui vont faire penser aux cas autochtones, et notamment toute la surveillance autour des cas importés et autour de la surveillance, la détection des moustiques dans l'entourage de ces cas importés. En fait, c'est le contexte qui va faire ça. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la sensibilisation de tous les médecins généralistes par l'ARS avec des messages réitérés à la fois sur les cas importés, mais sur les cas autochtones. Et après, il y a des consultations spécialisées, en effet, de médecine tropicale. Mais c'est vrai que c'est moins évident d'avoir un système d'alerte efficace dans un contexte, finalement, d'incertitude majeure. Parce que déjà, quand on a des cas importés et dans un contexte classique de paludisme, donc qui grève fortement le pronostic vital des gens, c'est-à-dire qui peut conduire rapidement à la mort... On a déjà une difficulté à sensibiliser le corps médical au moins, parce que ce sont des cas qu'ils voient peu souvent, peu fréquemment, au vu du nombre de médecins. Donc c'est déjà difficile de sensibiliser quand ça existe ou quand c'est probable. Alors quand c'est peu probable, c'est plus difficile à sensibiliser, je suis d'accord. Mais le maillage en amont doit, dans un deuxième temps, consolider ce système d'alerte. Donc, il y a une plateforme régionale ARS qui est mise en place. Donc il y a des communications dans différents sens avec de la rétro-information. Tout à l'heure, par exemple, je vous disais qu'il y a une déclaration spontanée des médecins et des biologistes, mais derrière, il y a les deux gros laboratoires de biologie avec des prélèvements centralisés qui font descendre une information au niveau de l'ARS pour que les informations puissent être coupées, quoi, à la manière du journaliste, si vous voulez. Voilà. Et après, si on est dans un contexte où on sait que il y a du moustique à un endroit, parce qu'il y a eu la prospection entomologique malgré tout, et qu'on a quelqu'un qui a de la fièvre à cet endroit-là, eh ben on sera plus attentif au fait d'envisager une dengue ou chikungunya. Voilà, donc c'est plus ce qui est fait en amont que juste le fait de dire possiblement c'est une maladie rare, rarissime, toute la problématique des maladies orphelines est rare, au-delà de ça, quoi. Voilà. Surtout qu'il y a plein d'autres choses à penser. Après, il y a un faisceau d'arguments aussi cliniques. Voilà. Mais après, ça peut être très assimilé à une virose. Après, il y a quand même des spécificités. Une virose, c'est-à-dire un contexte infectieux avec des arthralgies. C'est des douleurs articulaires. C'est pas forcément juste quelque chose de rhumatologique sans contexte infectieux. C'est pas juste une infection sans éléments rhumatologiques. Il n'y a pas non plus énormément, même si ça se trouve, hein, énormément de ce qu'on appelle diagnostic différentiel, donc de maladies à envisager avant d'arriver au bon diagnostic. Donc, et après, c'est la communication de ce qu'on entend directement au niveau de ce qu'entendent les citoyens aussi, de leur sensibilité à ça, quoi. Non, c'est difficile, je pense. Hein.
Alors, il y a trois interventions, quatre.
Natacha Fauvé, doctorante encore en économie de l'environnement au Greta. Je voulais revenir sur le terme de départ, à savoir l'espèce invasive. De ce que j'ai compris du débat qu'on a commencé à lancer ce matin, l'espèce invasive est une espèce qui a une action qui impacte la biodiversité locale. Alors est-ce que du coup on peut considérer le moustique tigre comme une espèce invasive, ou est-ce qu'alors c'est juste une espèce qui est vecteur d'une épidémie?
Je vais peut-être essayer plutôt de répondre. C'est là que je pense qu'on n'est pas forcément d'accord sur la notion d'espèce invasive. Et elle est pas. Il y a des méta-analyses. C'est pas mon point de vue personnel, mais ce qu'on a essayé de faire dans la recherche, c'est de synthétiser à partir de tout ce qui existait d'études locales. Et la notion d'impact, elle n'est pas forcément systématique non plus. Tout dépend la définition, le degré d'impact, etc. C'est ce qui fait que la définition que j'utilisais ne quantifie pas cette notion d'impact sur la biodiversité, mais plutôt le fait que l'espèce elle-même, elle a un certain comportement, elle a une certaine présence, une prolifération forte sur des longues distances ou des choses comme ça, sans présager du fait que son installation va faire disparaître ou ne pas disparaître telle ou telle espèce. Il peut y avoir un impact positif, négatif, certaines fois on ne le connaît pas, certaines fois il est largement démontré. Donc voilà, c'est une réponse, mais c'est une question de... Voilà.
Bonjour, Léona Delbach, INRA. J'avais une question et puis une modification. La question... je suis un peu entomologiste. Vous parliez de pièges pondoirs pour détecter le moustique. Comment peut-on détecter ce moustique par rapport à un autre qui vient de pondre dans le... Voilà. Il y a des différences sur le type de ponte ?
Sur le type de ponte ?
Oui.
Après, je sais pas les spécificités, vu que je suis pas moi-même entomologiste. Donc il y a certainement des caractéristiques de ponte, mais après ils ramènent ça en laboratoire et ils font incuber et ils voient ce qui sort.
Ah d'accord, ok.
Voilà,
okay,
et ensuite
là je suis d'accord.
Voilà, et ensuite ils caractérisent. C'est pas le fait juste d'avoir l'œuf à cet endroit-là.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des rôles.
Oui, je croyais que le diagnostic se faisait uniquement sur l'œuf, et là j'avais peur de risque de confusion avec d'autres espèces.
Non, il y a des relevés réguliers, au moins hebdomadaires, Voilà, et ensuite, c'est ramené en laboratoire et c'est caractérisé à cet endroit-là. Alors après, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a au moins cet aspect-là.
Après, juste un petit bémol par rapport à ce que...
S'il vous plaît, si on peut garder la discussion avec les questions de la salle. Merci.
Non, mais c'était juste pour parler des traitements larvicides qui se font avec du BTI, Bacillus thuringiensis, souche israéliensis. C'est un Bacillus thuringiensis, ce n'est pas un produit insecticide neurotoxique de synthèse, c'est un produit naturel, c'est une bactérie, et donc dont l'impact est nettement plus limité par rapport aux insecticides de synthèse qui étaient utilisés avant, et notamment le traitement avec la deltamétrine contre les adultes. Donc l'impact écologique est nettement moindre, mieux vaut lutter. Donc avec le BTI dans les zones, ça a moins d'impact et nettement plus d'avantages au niveau de la population que le risque écologique qu'il va y avoir si on attend d'avoir les adultes derrière pour être traités à la deltamétrine.
Ben, sauf en Camargue, je ne sais pas si vous êtes au courant des controverses camarguaises, mais là-bas, les écologues camarguais ont des publications très locales qui vont à l'encontre de toutes les publications internationales sur le sujet.
Mais parce que la Camargue,
donc en Camargue, le BTI affecte l'écosystème.
Oui, mais les autres... Les autres diptères, forcément.
Non, mais c'était sarcastique à mon propos.
Oui.
Ce qui ressort de votre exposé, c'est que la lutte insecticide a ses limites, et puis à la fois sociale et technique. Et puis vous avez donc beaucoup parlé de l'importance des mesures prophylactiques. Quand on est spécialiste de l'épidémiosurveillance en milieu agricole, les mesures prophylactiques, c'est vraiment un fondement, mais c'est toujours lié à une complémentarité avec d'autres actions. J'ai du mal à ne pas avoir une attitude un peu cynique en me disant, est-ce que vraiment on peut contrôler une telle problématique uniquement par de la prophylaxie par rapport à de l'eau propre dans un milieu urbain ? Est-ce que réellement ça suffit ? Ou est-ce que c'est une mesure parce que pour le moment, on n'en a pas trop d'autres ?
Dans les Antilles, ça fait des décennies qu'ils se battent sur ce sujet et ça ne marche pas. Après, encore une fois, souvent, le problème est ailleurs. Hein. Par exemple, dans les Antilles, il y a deux principaux types de gîtes larvaires, donc les fameuses soucoupes sous les peaux. Donc, encore une fois, même débat réglementaire que tout à l'heure. C'est-à-dire la puissance publique met des milliers d'euros pour expliquer aux gens qu'il faut ne plus utiliser des soucoupes. Mais en même temps, dans les jardineries, on continue à vendre des soucoupes. Hein. Donc voilà, et des fois, moi, sur le terrain, les gens me disent, je leur demande, mais pourquoi vous utilisez les soucoupes ? Oh, ben parce que c'était vendu avec le pot, donc j'allais pas la jeter. Donc vous voyez, donc déjà, il y a ce problème-là. Il y a un autre problème, c'est anti-EDF, hein, donc en Guyane aussi, c'est le problème de l'eau potable. C'est-à-dire que dans les Antilles, le réseau d'eau potable est complètement défectueux. Dans Martinique, c'est l'eau la plus chère de France. Okay, donc du coup, les habitants ont maintenu une pratique traditionnelle qui est la récupération des eaux pluviales. Et donc du coup, ces fûts sont des gîtes larvaires, mais là, ça produit des milliers de larves, quoi. Et finalement, est-ce que la solution n'est pas de faire en sorte que le réseau d'eau potable soit de meilleure qualité, qu'il n'y ait plus de coûts pour d'eau inopinée, et surtout que l'eau potable soit moins chère, ce qui permettrait de faire en sorte que les gens arrêtent de récupérer de l'eau pluviale et donc réduisent leur production de larves de moustiques. Voilà. Il y a un autre problème, c'est par exemple les véhicules hors d'usage. Donc c'est ces voitures qui sont abandonnées dans l'espace public ou qui sont gardées au fond d'un jardin et qui, avec l'effet tropical, vite abîmées, ont plein de réceptacles. Pourquoi il y a autant de carcasses de vieilles voitures dans les Antilles ? Parce qu'il n'y a pas de réseau de transport, que le peu de bus qu'il y a, ils sont extrêmement chers. Donc du coup, au regard du niveau économique de ces territoires, les gens vivotent avec un marché de la voiture d'occasion délabrée et qu'après, on ne sait plus quoi faire de ces voitures délabrées. Donc, peut-être que des fois, les solutions, elles sont ailleurs, quoi. Et si on avait un bon réseau d'eau potable, si on avait un bon réseau de transport en commun, peut-être qu'il y aurait moins de gîtes larvaires dans ces territoires-là. Et donc, on n'est même plus dans un problème d'insecticide ou pas insecticide. Et on est très loin des problématiques invabio, ceci étant, je vous l'accorde.
Oui, Laurent Guérin, du Muséum d'Histoire Naturelle. Merci pour ces présentations. C'est très intéressant, je pense, on parlait de systèmes d'alerte précoce, etc., de choses qu'on imagine. Je parle dans le cas du milieu marin. C'est vraiment balbutiant et mis en place. Là, on voit des choses très efficaces qui est lié, je pense, peut-être aux organisations pour les systèmes de santé. Parce que c'est l'instinct de survie, c'est l'espèce. On a cet instinct de survie, donc on met les moyens. On voit les moyens croissants au fur et à mesure, je voyais la multiplication des systèmes de détection, des pontes, etc. Il faudrait réfléchir aux coûts-bénéfices, peut-être, tout ce que vaut la prévention par rapport aux coûts quand l'épidémie est là. Mais je pense que c'est très humain, c'est valable pour beaucoup de choses qu'on a vues. C'est une fois que la catastrophe est installée qu'on met les moyens énormes. Et voilà, c'est peut-être des réflexions qu'il faut avoir en amont. L'histoire de définition, est-ce que le moustique est une espèce impactante ? J'utilise aussi des définitions où ce n'est pas simplement l'impact sur la biodiversité qui est un des impacts, qui a d'ailleurs des conséquences secondaires aussi sur l'homme. Mais l'impact de santé humaine, même de santé animale, il peut y avoir sur des élevages qui ont suite à ça des impacts économiques, et un des impacts. Il y a quelques confusions des fois sur une espèce invasive. Souvent, ça sous-entend une espèce introduite. Il peut y avoir des espèces locales proliférantes. Il y a plein de nuances dans les définitions, c'est pour ça qu'on est... On a commencé par ça au début, c'est des choses... Il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique, hein, en tout cas dans l'écologie marine, moi je n'en connais pas. Hein, on voit toujours sortir des articles différents avec chacun ses définitions. Le cas du moustique est intéressant parce que ça mène, je pense, la part des choix. Si l'épidémie se déclenchait vraiment, et qu'il y avait vraiment des cas graves, je ne sais pas si on ne reviendrait pas sur l'utilisation d'insecticides, si c'est le seul truc qui marche.
Ah ben c'est ça.
Ça pourrait être un problème, mais quand c'est une question de survie... peut-être qu'on oublie, c'est là où on met en deuxième part la nature. Enfin, je pense au XVIe siècle, tous les polders qui ont été faits, tout le colmatage des zones humides, des marais, était jugé comme un grand progrès, qui a été un gros progrès en termes de mortalité. En termes d'écologie, c'est quelque chose qui était assez désastreux. Voilà, c'est des points de vue très anthropocentrés, ce qui est normal. Mmh. C'est la survie de notre espèce. Mais il faut être conscient de ça, je pense qu'on étudie l'écosystème. Comme pour revenir à une des présentations de ce matin, vous voyez le frelon qui attaque les abeilles, qui est un problème qui nous intéresse parce qu'on profite de ces abeilles, c'est aussi une économie. Et on disait que ces abeilles commençaient à s'adapter, que c'était quelque chose de bien. C'est peut-être quelque chose qu'on a dans le long terme, et auquel j'espère on pourra s'adapter aussi. Voilà, je ne vais pas faire trop long. Pour le changement climatique, c'est quelque chose qu'on traite aussi. Là, je dis ça, je suis aussi dans un groupe de travail européen où on traite différents types de pressions. C'est plutôt comme un bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y a des confusions quelquefois. Le fait qu'une espèce augmente son aire de répartition ou arrive, donc il devient quelque chose de nouveau quelque part. Et c'est là où il y a les premières définitions. On dit que c'est une espèce qui franchit une barrière géographique, qui est amenée par un vecteur. Donc là, c'est une différence. Une espèce qui progresse d'elle-même par le changement climatique. Ce n'est pas les phénomènes d'introduction qu'on peut gérer sur les activités, c'est quelque chose de différent. C'est les changements d'écosystème qui peuvent devenir favorables à l'implantation d'une espèce, mais ce n'est pas simplement la progression de l'aire de répartition d'une espèce.
Il y a une autre intervention.
Enfin, je trouve que sur le moustique, c'est un exemple même où on entretient une confusion dans les différents termes. Parce qu'à la fois on a une lutte du vecteur pour des raisons sanitaires, de santé humaine, et c'est ce dont vous parliez vous dans votre exposé, et il y a une autre lutte qui est une lutte de confort et qui date de 75 et qui en Gironde n'intéresse que 37 communes par exemple avec un budget annuel de 1 million d'euros, ce qui n'est pas rien. Mais ce type de lutte où on s'adresse non pas à des espèces exotiques envahissantes ni à des espèces qui sont porteur d'un vecteur de maladie, ont fait l'objet d'une lutte très intensive des années 75 jusqu'aux années 2006 avec les interdictions de différents produits et avec un discours où on entretient cette ambiguïté entre la lutte de confort et le risque sanitaire. Et je pense que c'est... vous parliez des publications qui ont lieu en Méditerranée très controversées sur certaines... lutte contre le moustique, puisque là on s'adresse à des milieux sur lesquels par exemple le moustique tigre n'est pas présent, on s'adresse à des marais d'eau saumâtre, on s'adresse à des milieux naturels où, et il y a une certaine pression de certains entre guillemets lobbies, et on a une pour des raisons XY hein, qui dépassent le simple vecteur. Je pense que c'est un exemple même où on a une confusion dans les langages et dans les volontaires pour entretenir et pas trop, enfin,
Moi, personnellement, j'entretiens aucune confusion. Hein. Là, on m'avait demandé de parler du moustique tigre. Ouais, d'accord. On m'a... Oui. J'ai... Parce qu'après, voilà, après, on va distinguer la démoustication de confort et la démoustication lutte antivectorielle qui ne portent pas sur les mêmes milieux, qui ne portent pas sur les mêmes espèces. Faut savoir une chose, c'est qu'en France métropolitaine, la démoustication de confort qui a débuté dans les années 60 dans le Languedoc-Roussillon, paradoxalement, a été mise en place au moment, à peu près une décennie après, que le moustique n'était plus un problème sanitaire en métropole. Dernier cas identifié de paludisme dans le sud de la France, c'est 1947, si je ne me trompe pas. On a encore eu des cas en Corse jusque dans les années 70. Et juste, enfin voilà, il y a un paradoxe historique, c'est qu'on a commencé à démoustiquer le littoral méditerranéen au moment même où le moustique n'était plus un problème sanitaire. Pourquoi on a démoustiqué ? Mission interministérielle racine, urbanisation du Languedoc-Roussillon, développement du tourisme de masse. Hein. Absolument. Donc non, enfin, j'ai rien d'autre à dire. Après, oui, sur le discours, les lobbyings et tout, moi, je vous rassure, pour voir dans le sud de la France, les lobbyings, ils sont de part et d'autre. Hein. Ils sont de part et d'autre, et notamment, ça vient entraver les politiques sur le moustique tigre, parce que typiquement sur la Côte d'Azur, ce qu'on observe, c'est, encore une fois, un pouvoir polycéphale, qui d'un côté dit qu'il faut absolument informer la population le mieux possible pour qu'elle lutte contre ces eaux stagnantes et qu'on n'ait pas de risque vectoriel, et d'un autre, ça, c'est les services sanitaires, et puis les élus locaux et les services du tourisme vont vous dire non, surtout, s'il vous plaît, vous la ramenez pas trop haut, parce que si on commence à crier sur tous les toits qu'on a des risques de dengue et de chikungunya sur la Côte d'Azur, vous allez faire fuir notre clientèle. Donc là, oui, le lobbying, mais il est un petit peu dans tous les sens, et je crois que personne n'a le monopole d'un lobbying dans un sens ou dans un autre.
On s'est peut-être équilibré en ce sens.
Ouais.
Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Je pense que s'il n'y a plus de... Si, Madame Rabic, vous aviez une question.
Oui, vous m'entendez, hein,
oui,
ça va
bien.
J'étais, moi, sur l'évaluation économique des impacts des invasions biologiques. Parce que là, c'est nous nous occupons de la pêche, donc il faut qu'on sache aussi de quel sujet nous parlons. Quand nous perdons la vitalité de l'estuaire, qui est une nurserie, quand nous perdons une partie de la chaîne alimentaire le long des rivières par l'envasement successif, les autres, nous avons une perte halieutique. Et là, nous avons actuellement les scientifiques genre Agrompus à Rennes qui nous disent que malgré la diminution de 50% de la flottille, le stock est toujours immédiat, donc il faut stagnant. Donc, il faut encore diminuer la pression de pêche. Mais là, on ne s'occupe jamais des conséquences de la diminution de la chaîne alimentaire et autres. Nous avons, et vous n'avez pas parlé d'une espèce qui, pour nous, est très gênante, c'est le silure. Quand nous avons quand même une invasion de silures qui sont sur des frayères et qu'après, on dit que c'est nous qui faisons disparaître la grande alose, il y a quand même quelque chose dans le raisonnement qui n'est pas naturel. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut recenser, c'est que toutes les études sont bien faites, et je ne conteste pas, mal interprétées, parce que le scientifique fait son dossier, suivant les questions qui lui sont posées, pointe à la ligne, il met dans le tiroir, et après, qu'il l'exploite. Nous n'avons pas les connaissances, enfin, on n'a pas assez de relations entre nous, amicales, pour pouvoir avoir cette connaissance, et quand nous sommes, nous, dans les commissions gouvernement, enfin, où on fait la gouvernance, comment voulez-vous que nous nous débattons ? Parce qu'en fait, on nous dit, c'est bien vous qui faites disparaître les espèces autochtones, parce que je parle des espèces sauvages autochtones. Il y a quand même une question importante d'intérêt général sur la modification du changement climatique qui modifie le rythme des rivières. Et nous avons de moins en moins d'eau avec Garonne 2050, si vous suivez les travaux de l'Agence de l'eau, avec des débits qui vont être de plus en plus petits. Hein, réduit, petit. Donc nous allons avoir des rivières où nous allons avoir des étiages extrêmement importants. Par contre, justement, nous n'arrivons pas à défendre l'intérêt général de cette qualité d'eau par des mesures agri-environnementales adaptées, c'est-à-dire limitant les arrivées de pollution dans la rivière pour garder la qualité, je dirais, de notre pissette, comme je dis, parce que ça va être à peu près ça que nous aurons, hein, et que nous aurons, il faut la garder, puisque les trois quarts des grandes villes prennent l'eau potable dans la rivière, donc on va se retrouver avec des problèmes de concurrence d'usage, hein, et le prix, hein, qu'il va falloir nettoyer et autres. Donc là, c'est un intérêt général, mais nous avons des obstructions systématiques par des professionnels qui ne veulent pas voir la difficulté, je dirais, du changement climatique. Et ça, on ne fait jamais d'intérêt général, c'est-à-dire le fait de l'ensemble de ce que nous avons discuté ce matin. Chacun a raison dans sa façon, mais il y a des personnes ou des organismes professionnels qui seraient très heureux d'avoir en main la conclusion de ces réflexions grand public, enfin vous voyez, qu'ils soient quand même grand public, pour que nous puissions les mettre sur la table des endroits où il y a la gouvernance.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre pour Lucie Lure. Je ne suis pas sûr, peut-être ce matin, mais là, je ne suis pas sûr. Très bien. Oui, alors bon, mais je pense qu'on va s'acheminer vers la conclusion. Alors je sais que Cécilia, qui est venue en avion, mais qui va repartir en train, qui nous a fait quand même beaucoup, on a eu beaucoup de difficultés, mais on est arrivé, elle a souhaité maintenir sa venue. Donc on voulait te confier quelques mots de la fin, mais je pense que je crois que tu vas aller devoir prendre ton train.
Oui, bah, 5 minutes, il faut que j'y aille. Donc ça va être très vite fait. Bah, je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation. J'espère que je n'ai pas trop monopolisé la parole. Vous savez que je suis une grande bavarde. Donc j'ai essayé de me contrôler. C'est toujours difficile de conclure après des débats aussi riches, aussi diversifiés. Si je devais retenir qu'une seule idée, c'est... ça y est, j'en ai au moins 4 qui viennent tout de suite, là. C'est la nécessité de s'affranchir de préjugés en amont, hein, quand on aborde ces questions-là d'invasion biologique. Et moi, je me dis, pourquoi d'emblée parler de problème d'invasion? Pourquoi pas tout simplement commencer par des questions, hein? On pose la question et avant, à l'issue du travail, on dira si c'est un problème ou non, première chose. Deuxième élément, il semble que ce qui ressort de cette journée, c'est qu'il faut faire attention de toujours recontextualiser la question de l'invasion biologique étudiée, hein, ou gérée. C'est-à-dire, attention, de ne pas regarder au pied du réverbère éclairé, mais bien de se rendre compte qu'il y a un ensemble multifacteur à des échelles larges et que pour se battre contre une plante dans un étang, il est parfois nécessaire d'aller voir ce qui se passe à l'échelle de la région, de la nation, de l'Europe, voire de la planète. Hein. Je pense que c'est un autre point important et ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait en collaborant. Et écoutez, je suis assez heureuse de la capacité que les participants à ce débat ont eue à discuter entre gestionnaires, scientifiques, sciences de l'homme, sciences de la vie. Et je trouve qu'on a fait de très gros progrès en une dizaine d'années, parce que moi, j'ai souvenir des premiers colloques en France sur le sujet où vraiment, mais ça finissait au couteau, quoi. Enfin, verbalement, hein, pas physiquement. Et alors, c'est peut-être le savoir-vivre bordelais qui a aidé en la matière. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un progrès et pourvu que ça dure. Merci beaucoup.